bien, à présent, on va retrouver José pour la chronique Plus bête la vie. Une chronique, vous le savez, chronique hebdomadaire dédiée à la cause animale. Et aujourd'hui, on va revenir sur le thème des chats et des chiens que l'on perd et surtout la façon dont on peut procéder pour les retrouver.
Exactement, Marie. Parce qu'il y a deux semaines, on avait évoqué les circonstances lors desquelles un chat ou un chien pouvait disparaître des écrans radar. Et nous avions conclu que pour retrouver un animal perdu, il fallait le chercher.
Oui.
Et le chercher de la bonne manière. On met alors toutes les chances de son côté. Encore faut-il que l'animal soit identifié. Cela augmentant considérablement les chances de le retrouver un jour.
Oui. Normalement, c'est obligatoire d'identifier les animaux.
Oui, l'identification est obligatoire. Sauf que c'est une obligation légale qui n'est encore que trop peu respectée. Si l'on veille à attacher sa ceinture lors d'un déplacement en voiture parce que l'on sait que l'on risque, en étant en infraction, de se prendre une amende, pour ce qui est d'identifier chiens ou chats, le laxisme prévaut. Comme il n'y a pas de contrôle ou très peu, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein ?
Et alors, j'ai pas la relance. Ça va arriver, mais...
Bon, un petit rappel de la loi quand même, c'est-à-dire l'identification des chiens avant l'âge de 4 mois est obligatoire depuis 1999 et celle des chats depuis le 1er janvier 2012 avant 7 mois. L'identification est obligatoire également pour les équidés. Pour les furets, elle ne l'est pas, sauf dans les départements touchés par la rage, mais il est très recommandé d'y procéder. L'identification peut se faire par tatouage, mais celui-ci est abandonné progressivement au bénéfice de la puce électronique qui est nettement plus fiable. Des chiffres officiels donnent pour une population féline estimée à 10 millions d'individus en France le taux de 80% d'animaux non identifiés. C'est terrible, mais je pense moi que c'est encore très optimiste. Pour les chiens, la situation est meilleure, mais il y a encore des milliers d'animaux, notamment dans les zones rurales, qui ne sont pas identifiés. On rappellera tout de même que le défaut d'identification peut coûter 750 euros au contrevenant, d'après l'article 212-10 du Code rural. Et voilà, donc on va quand même revenir à nos brebis égarées, car après tout, c'est cela qui est censé nous occuper aujourd'hui. Alors, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est attaché à son animal de compagnie que de le perdre corps et bien. Bon, s'il tombe malade, s'il a un accident et s'il meurt, c'est dur, c'est un véritable deuil, mais la mort d'un animal, nous y reviendrons aussi une autre fois. En revanche, lorsqu'il disparaît, ce sont tous les scénarios les plus terribles qui se mettent en marche. Et là, on sait que si l'on ne fait pas l'effort de le chercher, personne ne le cherchera à sa place. Mais il y a néanmoins des petits miracles, comme dans le cas de Maya, une chatte plutôt jeune qui avait été perdue il y a déjà quelques années sur une aire d'autoroute, parce qu'on avait commis l'imprudence de la sortir de ses caisses de transport. Cela se passait environ à 20 km de Clermont. Pour comble de malheur, la détentrice de Maya habitait à Marseille. Elle est revenue plusieurs fois camper sur l'aire, sans succès. Maya a été retrouvée dans le village voisin, 2 mois plus tard, totalement épuisée, quasi mourante. Elle avait dû ne pas boire ni manger pendant tout ce temps. Les animaux de compagnie ne sont pas toujours, contrairement aux idées reçues, très débrouillards. Maya a été soignée avec beaucoup de persévérance et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, elle a retrouvé sa vie d'avant. Il y a plusieurs années aussi, un monsieur qui était un familier de la cause animale trouve, tard le soir, en sortant ses poubelles, un petit chien qui traînait seul dans la rue et semblait perdu. Le monsieur le ramasse pour la nuit. Le lendemain, il l'amène chez un vétérinaire. Bingo ! Le chien avait une puce électronique. Les détenteurs du chien l'avaient perdu 5 ans plus tôt. C'était bien lui. On en a conclu qu'il avait été volé ou du moins substitué par quelqu'un qu'il avait trouvé lors d'une fugue et avait décidé de le garder. Dans chacun de ces cas, si l'animal n'avait pas été identifié, il eût été très improbable qu'il retrouve ses maîtres.
Bon alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour retrouver un animal qui s'est perdu ?
Je te l'ai dit Marie, je le répète, il faut le chercher. Inutile d'attendre qu'il revienne tout seul, cela certes peut arriver, mais c'est loin d'être toujours le cas. Alors, pour chercher efficacement un animal, il faut d'abord tenir compte de sa nature. On ne cherchera pas un chien tout à fait de la même manière qu'un chat. Pour le premier, donc, le chien, tout dépend s'il a fugué, si on l'a perdu durant une promenade ou encore si l'on soupçonne un vol. Dans tous les cas, il faudra signaler sans attendre sa disparition. Mairie, gendarmerie, commissariat, vétérinaire, association de protection animale, refuge et bien entendu fourrière, car la plupart des chiens trouvés sur la voie publique y sont systématiquement conduits. Si l'animal est identifié, les formalités seront bien évidemment facilitées de beaucoup. Mais dans le cas d'une suspicion de vol, il faut faire la même chose et on peut également contacter la cellule antitrafic de la SPA nationale dont les locaux se trouvent à Vichy, dans l'Allier. Et puis, on peut bien entendu déposer plainte sans tarder, déposer une plainte contre X. Tout cela n'exclut pas que l'on mène sa propre enquête.
Enquête. Et qu'est-ce que tu penses alors de l'affichage, des affiches qu'on retrouve sur les feux
Alors, j'en ai pas encore parlé. Il est primordial, en fait. Pour retrouver un animal perdu, que ce soit un chien ou un chat, il est indispensable d'imprimer des petites tracts, format A6, vous savez, le quart d'une page normale, quoi. Mm-hmm. C'est une feuille standard, grande quantité, plusieurs centaines, c'est un début. Et littéralement, il faut arroser le secteur en élargissant les cercles de distribution. Boîte aux lettres, lieu public, distribution dans la rue. Les affichettes format A4 sont aussi bien utiles. On peut les disposer un peu partout, demander à des commerçants de les afficher, aux vétérinaires, etc. Un chien, s'il n'est pas empêché ou s'il n'a pas été pris de panique et s'est éloigné sans faire de marquage, peut revenir à l'endroit même où on l'a perdu. Et il faut en tenir compte.
Là, tu parlais des chiens, mais les chats?
Alors, les chats, c'est un poil différent. Bien entendu, il faut procéder de la même manière que pour un chien, c'est-à-dire rameuter autant de monde que possible, poser des tracts et des affichettes et mener sa petite enquête. Mais surtout, et cela est vraiment très important, il faut l'appeler, Marie.
L'appeler?
Ouais. Parce qu'un chat égaré, par exemple tombé d'une fenêtre ou sorti de son espace habituel, ne s'éloigne jamais beaucoup s'il n'est pas déplacé par un tiers. La plupart du temps, blessé ou non, s'il se retrouve dans un espace inconnu et par conséquent hostile, il cherchera à se cacher et ne bougera plus s'il n'est pas dérangé. Les chats sont par nature craintifs. Il ne sortira pas de son trou au dernier appel. Il vous faudra continuer des jours durant, voire des semaines. Il faut de préférence l'appeler une fois la nuit tombée, lorsque tout est calme. Ne perdez pas de vue que votre chat s'est peut-être introduit dans un lieu d'où il ne peut pas sortir, comme une cave ou un garage. Alors, il vous faudra tendre l'oreille parce que pour le coup, c'est lui qui risque de vous appeler. C'est sûr, pour retrouver un animal que l'on a perdu, il faut beaucoup de courage, de persévérance et surtout, il faut y croire. Je n'en ai pas encore parlé, mais il y a des sites pour les animaux perdus sur Internet qui sont très efficaces. Chatperdu.org, chienperdu.org, etc. Pet Alert ou je ne sais pas, il y en a plusieurs. Et nous n'en avons pas le temps, Marie, sinon je te raconterai des histoires extraordinaires comme celle de Titus, un chat disparu en Creuse, que sa maîtresse avait cherché sans relâche pendant des semaines, qui a été retrouvé un an et demi plus tard dans un village éloigné de 15 km. Aucun doute, c'était bien lui, puisque sa puce électronique en attestait sans erreur possible.
Ah oui, s'ils pouvaient nous raconter la période, leur péripétie, je pense qu'on ne saura jamais.
Quoi. Oui.
En conclusion,
bien, il faut le répéter encore, la meilleure façon de retrouver un animal, c'est de ne pas le perdre. Il convient d'être vigilant avec les animaux de compagnie, et puis il y a des comportements à proscrire absolument, comme le fait de faire voyager un chat sans caisse de transport, ou alors de lui ouvrir la dite caisse lors d'un arrêt. Comme de lâcher un chien que l'on sait fugueur, comme de ne pas faire stériliser un animal qui a accès à l'extérieur. Un chat non stérilisé trouvera toujours moyen de vous fausser compagnie, et dans ces cas-là, comme il s'éloignera beaucoup, il a pas mal de chances de ne jamais revenir. Un chien est plus facile à surveiller, mais le problème reste entier. Si on veut les protégés, on les identifie et on les stérilise. D'ailleurs, tu le sais bien, Marie, il y a actuellement beaucoup plus d'animaux que de foyers susceptibles de les recevoir.
Pour terminer cette chronique plus bête, la vie de brève.
De brève, alors deux petites brèves, ouais. On a d'abord le procès de l'abattoir du Vigan qui s'est tenu il y a quelques jours à Alès. Alors, il y avait trois prévenus, donc trois employés qui ont été accusés d'avoir fait subir des sévices des animaux, plus en tant que personne morale, la communauté de communes du Viganais. Contre l'un des trois prévenus, le procureur a requis 3 400 € d'amende et un an de prison avec sursis. Pour la communauté de communes, il a été requis 6 fois 1 000 € d'amende. Alors je voudrais souligner, c'est important parce que je voudrais souligner, c'est la première fois qu'un abattoir est traduit en justice pour des faits de sévices et d'actes de cruauté sur des animaux. C'est la première fois et on espère que ce n'est pas la dernière. Rappelons que la loi prévoit pour ça 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Là, on n'en est pas là, c'est vrai, mais on ne sait pas ce qui... Le délibéré sera rendu le 28 avril. On ne sait pas ce que ça va donner, mais enfin, c'est une première et c'est important. Alors, une autre brève qui concerne le secteur, là, puisque ça concerne Clermont-Ferrand, l'association La Griffe organise samedi, donc après-demain, samedi, donc 1er avril, à partir de 11h jusqu'à 20h, dans la salle Le Clancher, qui se trouve dans le quartier de La Plaine, rue de Champratel, dans la station tram, c'est La Plaine d'ailleurs, organise une journée d'animation et de brocante pour au profit des animaux qu'elle héberge, hein, et aussi elle a invité deux ou trois autres associations du coin qui viendront lui tenir compagnie. Voilà.
D'accord. Donc
l'entrée est libre, voilà, salle de clencher, l'entrée est libre, voilà, et puis on peut venir y flâner. Il y aura aussi des stands d'information sur la cause animale, sur toutes sortes de sujets.
Mmh. Donc, rappelle-nous les heures, les horaires.
De 11h jusqu'à 20h.
De 11h à 20h,
il y aura un buffet aussi, un buffet, une buvette.
Oui, c'est voilà. Important ça, c'est important,
bah, oui,
parce que ça peut
important.
Faire déplacer les gens.
Tout à fait.
En tant qu'Auvergnat, hein, voilà.
Un buffet végétarien, bien sûr.
Merci José, on se retrouve la semaine prochaine pour
D'accord.
Plus bête la vie, et puis pour ceux qui ont raté un petit bout de cette chronique ou qui souhaiteraient la réécouter, eh bien direction www.radioarverne.com ou bien lagriffe-asso.fr.
Voilà.
Merci José.
Cela.